problème que j'aimerais aborder avec vous, qui est dans mon esprit depuis plusieurs semaines, et qui s'affiche sous vos yeux, que j'ai intitulé par ces deux mots, consommation ou consécration. Ça va aussi dans l'autre sens, hein. Consécration ou consommation. Alors, pour cela, je vous invite à lire un premier texte en Luc chapitre 17. Versets 7 à 10. Qui de vous... Alors, essayez de vous projeter parce qu'aujourd'hui, cette situation est un peu moins fréquente qu'avant. Qui de vous ayant un serviteur? Je ne sais pas si vous avez beaucoup de serviteurs chez vous, mais il est facile quand même de s'imaginer la scène. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table !» Ne lui dirait-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné. Vous de même. Pour ne pas dire nous de même. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. L'histoire n'est pas si compliquée que ça. Elle met en scène un homme, un maître qui a un esclave, un serviteur. Et cet esclave, il a déjà ses responsabilités, il a déjà sa charge de travail, il a déjà labouré, il a déjà pelé les troupeaux, peut-être qu'il s'occupe de la vigne, il est déjà dans sa charge de travail. Il a fini sa journée de travail à l'extérieur et quand il rentre, eh ben, il n'a pas fini. Son maître est encore en droit de lui dire « Oh, va me préparer à manger ». Moi, je reviens du golf, je suis fatigué, je prends ma douche, va me préparer de quoi manger. Le maître ne lui demande pas comment ça s'est passé sa journée, s'il est fatigué, s'il a les courbaturés ou pas. Le maître est en droit de demander à ce serviteur encore. Va me préparer à manger, mets la table. Il aura pu encore continuer, après tu feras la vaisselle. Et puis une fois que tout est réglé, tu auras fait le tour de la propriété, tu verras si toutes les portes sont fermées, alors n'hésite pas à te reposer. Je te souhaite une bonne soirée, cher serviteur. À demain. Et Jésus pose une question. Est-il en droit de revendiquer, de se plaindre, ce serviteur? Pas du tout. C'est son job. C'est son travail. Il est serviteur. Sa vocation est... Je suis content que les plus jeunes enfants soient, enfin les plus jeunes, les plus grands des plus jeunes des enfants soient là, parce que les enfants sont toujours très enthousiastes lorsqu'on leur demande des services à la maison, n'est-ce pas? Tout de suite, ils se laissent spontanés. Oh oui, maman, qu'est-ce que je peux faire encore à la maison? J'ai déjà fait ma chambre, j'ai déjà mis la table. Est-ce que tu voudrais que je fasse quelque chose? Bon, il n'y a même pas besoin de leur demander, ils sont tellement spontanés pour réclamer de rendre service. Ça, c'était juste la phase humoristique de la prédication. Consommation ou consécration? Nous sommes dans ce qu'on appelle une société de consommation. Qu'est-ce que veut dire le mot consommation? Dans le dictionnaire, il est écrit « action de consommer, de faire usage de quelque chose ». Disons-le tout de suite, il n'y a rien de mal à ça. Hein. Et on va même s'apercevoir, on va développer que il y a même une nécessité de consommer. Mais ce qui pose problème actuellement, ce n'est pas seulement que nous soyons des consommateurs, mais que nous soyons dans une société de consommation. Et ça travaille notre esprit. Ça modifie notre manière d'être et de faire. Nous voyons que dans cette culture de la consommation, cela modèle notre façon de vivre, Nous ne sommes pas des ermites, nous vivons dans ce monde. Et nous avons beau dire tout ce que l'on veut, on est influencé par la société dans laquelle nous vivons. Même si nous sommes les chrétiens les plus pieux, nous sommes dans un contexte et nous sommes forcément influencés par ce contexte. Qu'est-ce que suscite dans l'homme et dans la mentalité de notre génération et dans notre cœur et dans notre façon de voir les choses aussi? La société de consommation place le plaisir au centre de nos vies, au centre de nos préoccupations. On s'en aperçoit plus encore chez les jeunes que chez les plus âgés. Mais tout est fixé sur le plaisir. Je prends, je me sers, je me fais plaisir. Et le problème de la société de consommation dans laquelle nous sommes, et la logique, la mentalité de la consommation, c'est celui de se faire plaisir. Tu ne cherches pas si c'est bien, si c'est mal. Le seul intérêt, c'est moi, c'est mon ego, c'est mon plaisir. Et ça, cette société, tu peux mettre la diapo d'après. C'est la mentalité du monde. Et Jésus l'a déjà annoncé. En 2 Timothée chapitre 3, il y a une description. À la fin des temps, les hommes seront fanfarons, hautains, blasphémateurs. Il précise bien, il y aura des temps difficiles à cause de la mentalité des gens. Et il précise bien qu'il y aura un temps où les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Et là, on commence déjà à s'approcher de cette opposition qui pourrait être là sous nos yeux, consommation ou consécration. Le problème n'est pas de consommer, mais quand le plaisir prend plus de place que Dieu, là, ça devient problématique. Et cette mentalité-là ne vient pas de l'esprit de Dieu. Elle vient de l'esprit du monde dans lequel nous sommes. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Consécration, c'est, selon le dictionnaire, l'acte par lequel une personne ou un objet sont séparés, mis à part, pour le service et le culte de l'Éternel. Acte par lequel une personne, un objet, est mis à part, consacré pour le service, le culte de l'Éternel. L'objectif là n'est plus, et tu peux mettre l'image après, n'est plus... L'objectif n'est plus le plaisir, mais l'objectif est le service. Et là, nous retrouvons cette mentalité dans le cœur même de Jésus, qui a pu dire en Marc chapitre 10, verset 45, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Et jusqu'à la logique de se servir et donner sa vie. Le serviteur que nous avions vu tout à l'heure, il avait déjà fait sa charge de travail, on lui demande encore une charge de travail, mais il n'est pas jusqu'à donner sa vie. Jésus est le serviteur par excellence. Il n'est pas venu pour être servi, et pourtant, il n'avait eu qu'à claquer les doigts pour que le monde entier se prosterne devant lui. Mais il est venu pour servir. C'est sa mentalité. Et servir, mais jusqu'au bout, jusqu'à en donner sa vie. Ça, c'est la notion de consécration, mise à part pour servir. Mise à part pour servir. Permettez-moi quand même de dire que je ne veux pas là qu'il y ait opposition dans ces deux notions-là. D'ailleurs, dans l'histoire que nous avons lue tout à l'heure, le maître lui dit, voilà, tu reviens des champs, prépare-moi à manger, et puis après tu iras toi-même manger. Il ne dit pas... Tu me sers, et puis après, au revoir. Il lui dit bien, après tu iras manger. Donc il y a bien là, c'est la place des choses. Consommation et consécration ne sont pas du tout à opposer. Je dirais même qu'il y a même un danger. Séparer l'un de l'autre, ce serait péché, manquer le but. Imaginez que nous vivions notre vie chrétienne dans une logique de consommation mais sans consécration. Nous serions des hommes, des femmes consommateurs. C'est-à-dire que toute notre vie serait focalisée uniquement sur les bienfaits que nous apporte Dieu, son œuvre, l'Église, la communion fraternelle. Oh, Seigneur, je sens ta présence, c'est bon, c'est doux. Et alors, on serait que des consommateurs. On ne chercherait pas du tout un seul instant à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? En quoi je peux servir? Et on va développer toutes ces choses-là. Mais nous serions comme là, toujours comme des sangsues. Qui dit quoi? Donne, dit la sangsue. Il n'y en a pas d'autre. À moi, je veux, je prends. C'est mon plaisir, c'est mon intérêt, c'est ma ressource. Ce qui m'apporte, c'est là. C'est quel intérêt, quel apport m'apporte l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que m'apporte, qu'est-ce que me donne Dieu? Et ça, c'est un esprit de consommation. Mais un esprit de consommation sans service, vous serez des chrétiens tristes. Vous serez des chrétiens dans l'ennui. Vous serez des chrétiens appesantis. À l'image des fois où on a un peu trop mangé et ça nous paraît difficile de nous lever de table. Parce qu'on est comme un peu appesantis. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'excès de table appesantit l'esprit. Mais une consommation de l'évangile sans service, ça appesantit notre propre vie spirituelle. Vous savez, à force de fabriquer, de refaire les filets, les pêcheurs ne vont plus à la pêche. Ils sont toujours là en train de fignoler, de se faire du bien, de vérifier si ça marche bien. Mais à force de faire, il y avait quand j'étais enfant une publicité pour les frites. Et le slogan c'était, c'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Mais dans l'évangile c'est pareil. C'est ceux qui entendent, on consomme le plus, qui le vivent le moins. Parce qu'on est dans une logique de consommation sans avoir la logique de service. Vous deviendrez non seulement des gens qui s'ennuient dans leur vie spirituelle, mais vous deviendrez des gens égoïstes. Plus nous consommons, plus nous sommes égoïstes. Plus ces gens ont tout sur cette terre, et moins ils veulent partager, n'est-ce pas? Et spirituellement, c'est pareil, mes bien-aimés. Consommateur, eh bien on s'aperçoit que ça fait des chrétiens égoïstes. Ils ne viennent plus qu'à l'église pour se faire du bien, mais absolument plus pour partager quelque chose. On vient pour la sensation, mais plus du tout pour l'inspiration. On vient pour qu'on nous dise bonjour, mais on ne vient plus pour partager notre maison. On vient pour s'entendre dire des choses agréables, mais on ne veut plus du tout d'une prédication qui nous remette en cause. Et quand on est dans cette logique-là, tu peux revenir, nous devenons malveillants. Peut-être que ça peut vous paraître étrange, étonnant, mais quand nous sommes des chrétiens consommateurs, il y a ces étapes, on s'ennuie, on est insatisfait de notre vie spirituelle. Pourtant, on ne comprend pas, pourtant, on consomme, pourtant, on essaye de chercher toujours qu'est-ce qui peut être bon. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je cherche ta face, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi sentir quelque chose. Mais comme nous sommes dans une logique d'égoïsme, nous consommons, on concentre tout sur nous, et ça, on finit par être des chrétiens, on va dire des croyants, malveillants. On commence à avoir des paroles acerbes, on commence à critiquer, on commence à juger, on commence à condamner. On commence à être dur avec ceux qui ne nous donnent pas. Un homme disait que l'égoïste, c'est celui qui ne me donne pas. Comprenez ? L'égoïste, c'est celui qui ne me donne pas. Quelque part, celui qui dit ça, c'est déjà l'égoïste. L'égoïste, il ne sent que sur lui-même. Et c'est facile de critiquer l'autre, dire c'est un égoïste parce qu'il ne me donne pas. Vous savez, quand on est enfant, on fait souvent culpabiliser l'autre quand il a un gâteau. C'est pas bien de ne pas partager, hein. Parce que son seul intérêt, c'est qu'on lui donne à lui. Qu'importe s'il partage aux autres ou pas. D'ailleurs, une fois qu'il a eu sa part, il va dire à sa copine, non, pas elle, pas lui. Hein. Mais de temps en temps, on a des logiques aussi enfantines que ça, malgré qu'on soit dit chrétien. D'ailleurs, il y a des exemples dans la Bible. J'ai pas un exemple parce qu'ils sont nombreux. Ce sont les rois d'Israël, les rois de Juda. Vous avez déjà été roi, vous, d'un pays? Non?
Bientôt.
Mais quand on est roi, on a quelques privilèges quand même, non? Là, on en a des serviteurs, des servantes. On les choisit, casting et tout. Et les rois d'Israël avaient des privilèges. Ils avaient les privilèges d'être rois, avec des privilèges que Dieu même a accordés, justement. C'était volontairement qu'ils avaient des privilèges particuliers. Et vous regardez, de manière générale, ces rois-là étaient des rois consommateurs. Et du fait qu'ils refusaient de se consacrer à l'Éternel, du fait qu'ils refusaient de plier leur vie à la volonté de Dieu, cela devenait des mauvais rois. Et ce n'est pas seulement un jugement de théologien. La Bible, Jésus, Dieu les considérait comme des mauvais rois. Si nous sommes des consommateurs sans consécration, nous serons insatisfaits, égoïstes, et nous deviendrons malveillants. Mais l'inverse aussi est dangereux. Et là, tu peux mettre. Être consacré sans consommer est également dangereux. Je finirai par m'assécher. Quand je parle de consommer, je parle de consommer de la présence de Dieu, consommer la communion fraternelle, consommer la douceur de la relation intime avec Dieu, partager les joies avec l'Église, partager les délices de la parole de Dieu. Il y a tant de choses à consommer. Consommer la grâce, consommer les visitations du Saint-Esprit, consommer avec joie le salut que nous avons, consommer les promesses que Dieu nous a données par rapport aux guérisons, au baptême du Saint-Esprit, aux dons spirituels. Il y a plein de choses à consommer, à vivre, à expérimenter cette paix qui surpasse toute autre chose. Il y a plein de choses à consommer de Dieu. Et il est important que nous les consommions, parce que si nous sommes des consacrés sans vivre ces choses-là, alors nous connaîtrons aussi des frustrations. Je vais juste prendre un exemple et vous comprendrez mieux les mots qui sont inscrits là. La plupart d'entre nous, c'est pour ça qu'on ne va pas lire toute l'histoire, la plupart d'entre nous connaissons une parabole qui s'appelle le fils prodigue. Pas prodige, hein. Prodigue, c'est un vieux mot qui veut dire dépensier. L'histoire de ce jeune homme, donc, qui quitta la maison du père, voulant vivre sa vie, et il a dilapidé tout son argent, il se retrouve là, la tête dans l'eau. Voilà, c'est quelqu'un qui a voulu consommer sans être consacré. Je fais ce que je veux, je cherche mon plaisir, il se retrouve le bec dans l'eau, et puis il rentre à la maison. Et là, le père est content. Mon fils, que je croyais être mort, est revenu. Et là, il fait une fête, il honore ça. Et puis, il y a le frère aîné, ou le fils aîné, qui arrive. Et qu'est-ce qu'il est dit? Le fils aîné, voyant cette fête, voyant ses cris, voyant qu'on est en train de faire un bon méchoui pour le retour du fils, de son frère, entendant tous ses cris, il dit, mais c'est pas possible! Lui qui a dilapidé tout l'argent, lui qui a déjà prostitué, lui qui a abandonné l'affaire familiale. Et il nous est dit, le fils aîné se mit en colère. C'est pas seulement une simple pensée, oh, lui il exagère un peu. Il se mit en colère. Et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Écoutez ce que dit cet homme. Voici tant d'années que je te sers. » Voilà quelqu'un de consacré. « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir transgressé tes ordres. » Pas mal quand même. Un gars, il dit, « Mais ça fait des années que je te sers et jamais tu peux rien me reprocher. J'étais nickel. Tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. » Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et là, vous comprenez le mot frustration. Mais mon enfant, lui dit le père, mais tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et là, nous sommes complètement dans cette logique de celui qui est consacré sans consommer. Je sers, je fais, tu peux rien me reprocher. Et moi, regarde, j'ai même pas droit à un agneau, j'ai même pas droit à un chevreau. Mais tout était là. Tu n'avais qu'à te servir. Tu pouvais t'inviter tes amis. En quoi est-ce que je t'aurais refusé quoi que ce soit? Si tu voulais, mais c'est tous les jours que tu aurais pu faire la fête. Comprenez que la consécration, le service dans l'église, l'abnégation, je vais faire ceci, je vais faire cela, et il faut, tu vois là, le pasteur il sera super content, et puis je vais faire ça pour le frère, et puis je vais faire ça pour la soeur, cette consécration, cette mise à part, je vais être irréprochable, vraiment je serai quelqu'un de super parfait, carré, de toute façon moi je vais être le meilleur des chrétiens. Cette mentalité peut être bonne, mais s'il n'y a pas la consommation, si on ne sait pas se réjouir de ce que le Père nous a déjà donné, si on ne sait pas vivre de cette relation avec Dieu, si on ne sait pas être dans la joie, dans la communion fraternelle, si on ne sait pas jouir au quotidien de la paix, de la joie, du salut, du pardon de nos péchés, alors nous vivrons comme des frustrés. Ah, moi je sers Dieu, moi je sers l'église, moi je fais ça dans l'église. Et puis au fond de notre cœur, on garde une rancœur par rapport à ceux qui ne vivent pas les mêmes choses. Moi je suis là aux réunions, et ben lui. Et on cultive cette frustration, cette colère à l'égard de Pierre, Paul, Jacques et eux. Et là, on commence déjà à stigmatiser les gens, à stigmatiser le frère, à stigmatiser la sœur. Et pourquoi moi et pas lui? Et on devient des légalistes. Parce qu'on va commencer à se justifier, non pas sur ce que le Seigneur nous a donné, mais sur ce que nous faisons. Moi, je fais. Moi, je suis un bon chrétien. Moi je fais ça, moi je fais ça, et pourquoi pas lui, et pourquoi pas elle, regardez-moi. Et c'est complètement la logique de ce pauvre frère aîné. Il se mit en colère, il refusa même de rentrer dans la salle pour voir son frère. Et là, il sort tout ce qu'il porte dans son cœur depuis des mois, peut-être même des années. Je te sers et tu m'as rien donné. Mais alors tu servais pourquoi? Tu servais pourquoi? En fait, au fond de toi, tu servais, mais t'espérais bien qu'on t'applaudisse. T'espérais bien qu'on fasse une fête en ton honneur. T'espérais qu'on dise « Oh, ça c'est un bon, ça c'est une bonne chrétienne. » T'espérais quoi dans ton service? Et là, c'est révélateur. Notre relation avec le Seigneur ne doit jamais être consommation ou consécration. Elle doit être consommation et consécration. Si nous annulons l'un ou l'autre, alors nous péchons, nous manquons notre but. La vraie question n'étant pas d'opposer la consommation des choses spirituelles ni la consécration dans les œuvres, mais la vraie question c'est de se dire, mais qu'est-ce qui domine dans ma vie? Qu'est-ce qui domine dans ma vie? La consécration ou la consommation? Qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui est dans mon ordre, dans mon cœur, dans ma relation vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce qui domine? Suis-je uniquement un consommateur de Dieu? Ou suis-je aussi un consacré à Dieu? Suis-je un consommateur de l'Église? Ou suis-je aussi consacré à l'Église? La consécration fait partie de notre appel. Tu peux mettre la diapo d'après. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Voici le résumé de ce verset-là, 8 à 10 d'ailleurs. Il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don, c'est un cadeau. Il faut consommer, il faut prendre. Le monde entier sait que Jésus est mort pour leurs péchés, mais combien vont saisir ce cadeau? Mais ce n'est pas tout. On pourrait arrêter le message de l'évangile à cela. Vous êtes sauvés. Christ est mort pour vos péchés. Pas de problème. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une suite. Car... conjonction de coordination. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour l'objectif, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions comme si nous n'avions pas compris, que Dieu préparait des œuvres pour que nous les pratiquions. Des fois, Dieu sait qu'on est un peu dur d'entendement, hein. Nous avons été sauvés. Mais pour de bonnes œuvres. Seigneur, merci pour l'héritage que tu me donnes. Merci pour la vie éternelle. Merci pour cette grâce. Et nous avons raison chaque dimanche matin d'exprimer mais le bonheur que nous avons d'être en lui, de lui en nous. Et nous avons raison d'exprimer avec émotion, et pas seulement du bout des lèvres, mais du plus profond de notre être, d'exprimer tout ce que le Seigneur nous permet de vivre, même si c'est petit par rapport à ce qu'on vivra au ciel, mais c'est déjà tellement grand par rapport à ce que nous méritons. C'est une faveur incroyable que nous, des misérables comme nous sommes, nous avons la faveur de sentir la présence de Dieu, qu'il nous aide, qu'il nous assiste, qu'il renouvelle nos forces alors que nous nous sentons faibles, qu'il veuille bien nous pardonner nos péchés. Si moi j'avais eu un rapport avec moi-même vis-à-vis de mes péchés, mais ça fait belle lurette que j'aurais lâché ma propre main. Est-ce que le Seigneur a lâché vos mains? Et le Seigneur est là, et nous avons raison de le louer pour sa fidélité. Nous avons raison de le remercier pour sa patience. Mais si le Seigneur nous a sauvés, c'est pour que nous puissions le servir. Il y a un slogan, sauver pour servir. C'est pas moi qui ai inventé ce slogan. C'est le slogan d'une vieille association qui s'appelle l'Armée du Salut. L'Armée du Salut. Et ça, c'était leur slogan. Sauvé pour servir. Je suis sauvé, Seigneur, mais je sais que ce n'est pas seulement pour que je consomme ce salut égoïstement. Ce n'est pas seulement pour que je sois là, bien dans mes baskets. Ce n'est pas seulement pour que je réussisse mes examens. Ce n'est pas seulement pour que voilà, je me sente bien lorsque j'ai des moments difficiles. Mais tu m'as sauvé pour servir. Et si tu m'as donné cette paix, si tu m'as donné cette force, si tu m'as donné cette joie, si tu m'as donné le Saint-Esprit, c'est pour que je puisse et servir plus efficacement. D'ailleurs même, et on l'a déjà dit plus d'une fois, mais même l'assistance du Saint-Esprit nous a été donnée pour servir. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Je le dis souvent et je le rappellerai, mais si dans notre vie spirituelle nous sommes restés qu'à un niveau de consommation, alors nous ne connaîtrons jamais la bénédiction des fruits de l'esprit, des dons de l'esprit. Parce que nous serons là comme des consommateurs et jamais comme des volontaires à servir. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à le servir. Si nous restons à une base de je prends, je me fais plaisir, alors le Saint-Esprit n'a plus sa place. Il n'a plus sa place. Il nous a demandé d'aspirer. Et cette aspiration vient du désir de servir. Servir l'œuvre de Dieu, servir mes frères, servir mes sœurs, servir l'inconverti, servir les gens qui ont besoin d'être sauvés. S'il n'y a pas cette aspiration au service, il n'y aura pas ces aspirations pour les choses spirituelles. Et le Saint-Esprit ne s'impose jamais, hein. Il restera à côté, comme un fidèle serviteur. Si tu ne me demandes rien, je ne fais rien. La consécration, tu peux rester là, n'est pas une spécialité de quelques chrétiens. La consécration fait partie de notre appel. Y a-t-il ici des gens qui sont à moitié sauvés? Un tiers sauvé? Un huitième? Oh non, moi, moi je suis trois quarts sauvé. Vous êtes sauvé entièrement.
Amen.
Tout votre être est sauvé. L'esprit, l'âme, le corps, il nous a même parlé de la résurrection des corps. Quand Dieu vous a touché votre cœur, a pardonné vos péchés, il vous a pas dit je te pardonne tous tes péchés. Enfin, tout. Vu ce que tu as fait avec ta mère, quand même. Hein. Non, non, zéro. Reset. Page blanche. Il a vraiment nettoyé tout le disque dur. C'est un salut entier. C'est pas dire, ah bah je te sauve, mais bon, toi quand même, tu vas juste rester à la porte. Hein. T'entendras juste les bruits de joie, mais c'est tout. Hein. Non! Il nous a ouvert les portes du ciel. Grande! Un large accès, nous est-il dit. Les bras ouverts. Le salut, vous êtes sauvés pour servir. C'est-à-dire que tous ceux qui savent qu'ils sont sauvés, qu'ils ont l'attestation à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Tous ceux qui ont connu ce temps de repentance, ce temps de conversion, ce temps de transformation, ce désir d'aimer Dieu, ont reçu en même temps, c'est lié, c'est les Pâques. Cette disposition et cette mentalité au service. Tout simplement, parce que si vous êtes sauvés, c'est parce que l'Esprit de Dieu a commencé une œuvre en vous. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Et on a vu que l'Esprit de Jésus, c'est servir. Donc comprenons bien que la consécration n'est pas une spécificité de quelques chrétiens. Et pourtant, on le voit si souvent dans les églises. Une partie de chrétiens super consacrés. D'ailleurs, on les voit partout. Hein ? Ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. C'est les mêmes. C'est les mêmes noms qu'on retrouve partout. Et puis, une autre majeure partie de l'auditoire qui est la consommation. On vient, on écoute, on repart. Ah, s'il y a quelque chose, on vient. Et on repart. Il y a un appel. Mais nous, on est juste venus pour consommer. Nous sommes sauvés pour servir. Et quelque part, je me pose la question, et si je ne remplis pas la deuxième condition, est-ce que cela a une influence sur l'appel ? La consécration fait partie de notre salut. Et j'ai envie de vous dire ce matin que la consécration n'est pas une médaille. Mais la consécration est révélateur de notre salut. La consécration est révélateur de notre état spirituel. Et nous allons le voir. J'anticipe déjà sur ce que le diable pourrait essayer de semer comme mauvaise idée. La consécration, ce n'est pas l'activisme. La consécration, ce n'est pas l'enchaînement de faits. Je fais ci, je fais ça, je fais ça, alors je suis consacré. Non, on peut faire plein de choses et pas du tout être consacré. Mais c'est une mentalité, la consécration est une mentalité. Jésus a bien dit, je suis venu pour servir. Il n'a pas dit, je suis venu pour faire, pour faire, pour faire, pour faire. Mais je suis venu comme pour servir, c'est une mentalité. Quand on a parlé dans Luc chapitre 17, verset 7, on voit une mentalité du gars. Il n'a pas dit, oh, moi tu m'as embauché pour paître tes troupeaux et pour m'occuper de ta vigne, hein, tu ne m'as pas demandé de faire la cuisine. Bah si, t'es serviteur, donc tu sers, c'est tout. Basta, c'est une mentalité. Et la consécration, mes bien-aimés, ne doit pas être vécue comme un devoir. Mais nous devons comprendre que c'est révélateur de notre état spirituel. Dans l'ancienne alliance, tout le peuple d'Israël était consacré à Dieu. Tout le peuple. C'est en Exode, chapitre 19, verset 6, qu'il est écrit « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Dieu avait mis à part, on retrouve cette notion de mise à part, de consacrer. Tu me perturbes, Archange. Dieu avait mis à part, parmi toutes les nations du monde, un petit peuple de rien du tout, hein. Il le dira bien d'ailleurs, hein. C'est pas par vos mérites que je vous ai choisi. Hein. C'est pas parce que vous... ne croyez pas que c'est parce que vous étiez plus obéissant que les autres ou vous étiez plus fort. Non, 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 non. C'est pas du tout ça. Mais il a mis à part un peuple. Et c'était le désir de Dieu, la projection de Dieu, le plan de Dieu, de mettre à part un peuple tout entier. Et il dit bien, vous serez une nation sainte. Vous me servirez. Non, dans l'ancienne alliance, le regard de Dieu était qu'il y ait tout un peuple qui soit consacré à le servir. Et dans ce peuple qui était déjà considéré comme mis à part, comme saint, comme étant un peuple consacré, et en plus, il choisit du milieu de ce peuple une tribu de Lévi, afin d'être des servants, des sacrificateurs dans le temple. On appelait ça des sacrificateurs. Donc il y avait déjà un peuple qui était entièrement consacré, et parmi ce peuple déjà consacré, il y avait encore des gens qui étaient encore plus consacrés, spécifiquement pour tout ce qui est de droit culturel, etc. Culturel, pardonnez-moi. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, il est écrit « Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Référence, Apocalypse chapitre 1, verset 6, Apocalypse chapitre 5, verset 10, et vous pourrez encore lire 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. La consécration fait partie de notre appel. Ne disons pas, c'est les autres qui vont servir. Oh, on n'a pas besoin de moi. Oh, moi, je ne le sens pas. Ça n'a aucun sens. Rappelez-vous les Lévites. Les Lévites étaient sacrificateurs. Pour quelle raison? Parce qu'ils étaient Lévites. En fait, il n'y a pas de raison. Dieu a choisi un peuple, une tribu. Oui. Oh, mais papa, j'ai pas envie d'être sacrificateur. T'es Lévite. T'es sacrificateur. Ah oui, non, mais moi j'ai d'autres projets. Moi je vais ouvrir un magasin. T'es Lévite. T'es sacrificateur. Ah oui, non, mais moi aujourd'hui j'avais prévu d'aller à la plage. T'es Lévite. C'est ton service au temple. Comprenez la logique? Et Dieu nous dit pas, choisissez si vous voulez être des sacrificateurs ou pas. Choisissez si vous voulez être un peuple acquis ou pas. Et c'est là que je me demande, est-ce que le refus d'être consacré ne m'exclut pas de l'appel? Étant donné que la consécration fait partie de mon appel et que la consécration est révélateur de mon état d'esprit à vouloir servir Dieu ou pas. Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes heureux et nous le devons. Nous sommes heureux de consommer la grâce du salut. Nous sommes heureux et nous devons nous réjouir de la joie du pardon que le Seigneur nous a donné. Nous devons, mais chaque jour, vivre de l'enthousiasme. Enthousiasme, c'est un mot grec qui dit « entheos », en Dieu. Celui qui est en Dieu, il est enthousiaste. Donc il y a une consommation de Dieu qui nous donne cette force, cet enthousiasme, cette grâce qui remplit notre cœur. Nous sommes heureux de consommer la douceur de cette relation que l'on a avec Dieu. Qui d'entre nous bouderait la consolation que Dieu nous apporte lorsque notre cœur est tout cassé là? Oh, le frère, il m'a pas dit bonjour à l'église. Oh, Seigneur. Je caricaturise à peine. Oh, avec tous les problèmes que j'ai, Seigneur, au secours. Pourquoi tu habites au Népal? T'es persécuté? T'as subi la torture? Oh, mais tu ne veux pas comprendre ce que j'ai dans mon cœur. Je suis d'accord. Mais est-ce une logique de consommation, Seigneur, Seigneur? Où le Seigneur deviendrait une sorte de doudou spirituel? Ou avons-nous la logique du serviteur qui, après sa journée de travail harassante, va rentrer à la maison et là, il s'entend encore dire « Oh, il commence à faire tard, je suis fatigué, moi, tu veux bien mettre la table, préparer quelque chose parce que moi, il faut que je mette mes pieds dans un éventail. » Pas de problème, chef. La consécration ne doit pas être un devoir religieux, mais c'est une mentalité. Je crois que ce qui peut empêcher des chrétiens de vivre l'intensité de la consommation de Dieu, l'intensité de la joie, l'intensité de l'enthousiasme, l'intensité de la paix. Certains vivent leur vie... Ouais, ça va, quoi. Et puis, on est un peu frustré. On a passé la page, mais rappelez-vous à quoi est associée la frustration. l'ennui, le côté un peu mollasson. C'est quand il y a la consécration ou pas la consommation, ou la consommation mais pas la consécration. Et il y a peut-être des décalages. Et je crains que dans la société dans laquelle nous sommes, nous soyons plus influencés par la société de consommation que par des exemples de consécration. C'est une question de génération, hein. Génération de Monsieur Martin, c'est une génération de consécration. Ils ont rebâti la France. On a fait appel à eux. Ils faisaient des choses incroyables. J'ai entendu des pasteurs qui étaient capables de votre génération de faire 40 km à vélo voilà, pour une réunion et puis encore 40 km pour faire une deuxième réunion et puis ils rentraient à la fin de 3 heures et puis le lundi ils étaient encore au boulot. Moi je serais incapable de faire ça. Hein. Parce qu'il y a une mentalité. Ces gens, ils ne vivaient pas pour eux-mêmes. Ils avaient cette projection qu'il fallait construire, qu'il fallait bâtir, qu'ils étaient consacrés pour une œuvre qui valait la peine d'être vécue. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait d'efforts. Dès qu'il y a une résistance, oh ! Dès que c'est dur, oh non ! Dès qu'il fait froid, oh, je n'ai pas trop envie de sortir. Ne nous laissons pas bouffer par la société de consommation. J'ai lu un témoignage tout récent, pas de chrétien, un témoignage du monde. Un jeune homme qui il a fugué de chez lui. Mais plus terrible que ça, il s'est fait passer pour mort. Il s'est fait passer pour mort. Il a envoyé une photo faisant comprendre que voilà, pensez plus à moi, je suis mort. Donc ses parents, sa famille, en larmes, c'est foutu. Et le gars, il a disparu comme ça pendant un an. Et puis tout compte fait, il est réapparu. Le jour de la fête des mères, tranquille. Coucou. Bien sûr, il a été accueilli comme le fils prodigue. Oh, enfin, notre fils que nous pensions mort est revenu. Et puis après, une fois les embrassades, bon, explique-nous quoi. Ce gars, il a expliqué, bah, en fait, j'étais en échec. Un échec sentimental, un échec professionnel. J'avais plus de 25 ans. Il avait tout, il était chez ses papas, chez maman. Et puis il a eu envie de partir. Et il a fait le tour de l'Europe à vélo ou à pied, je ne sais plus. Et il a vécu comme ça, par l'hospitalité que les gens lui faisaient ou pas. Et il a ouvert les yeux sur ce que c'est que la dureté de vivre dehors. Sur voir la bonté, la gentillesse des gens, du contact. Des découvertes qu'il faisait. Et il a dit, je suis revenu, mais je suis transformé. Parce qu'il a accepté de sortir de son petit cocon. Il a accepté de subir la rudesse de l'hiver. Il a accepté de et il a dit, mais j'ai même été surpris de voir comment j'étais capable de faire certaines choses. Il s'est découvert lui-même en sortant de son petit confort douillet. Spirituellement, nous sommes dans la même situation. Nous sommes tellement portés dans notre petite consommation spirituelle que dès qu'il y a une petite épreuve, quelque chose qui nous déstabilise, alors on prend tout de suite le doudou Jésus. Et dès qu'il y a un appel, un service, un engagement à faire, moi je ne suis pas là, hein. Je suis pas là frère, hein. Moi j'ai autre chose à faire. On a tous autre chose à faire. Mais vous êtes lévites, vous êtes sacrificateurs. La consécration. Enfin, la société de consommation, pardonnez-moi, la société de consommation tue l'enthousiasme, tue la mise à l'épreuve, tue les envies, tue cette détermination que... Et on le voit dans la jeune génération, ils ont envie de rien. Ils ont envie de rien, il n'y a rien qui les stimule, il n'y a rien qui les pousse. Ils sont là comme des... Faisons attention que l'esprit de consommation ne gagne pas notre vie spirituelle. Et réalisons que nous avons besoin de consommer, mais pas comme étant une fin en soi. Nous sommes appelés à consommer pour servir. Nous sommes appelés à vivre des choses avec le Seigneur pour communiquer. Alors, et ce sera la dernière diapo, nous allons pendant ces quelques semaines qui vont venir réfléchir justement sur ça. Que la consécration n'est pas un devoir, mais une mentalité. Et je ne serai peut-être pas exhaustif, peut-être que j'ai oublié des points. Mais lorsque le Seigneur m'a mis cette notion de la consécration à partager avec vous, il est apparu ces différents points. La place de Jésus. La place de la parole de Dieu. Le service dans l'Église. Les offrandes. Le prochain. Et nos propres paroles. Et j'étais surpris moi-même. Je suis pas mince alors. De m'apercevoir qu'effectivement, consommation et consécration sont liées. Et on va lire ensemble les versets qui parlent de la notion de consécration par rapport à la place de Jésus, de la parole de Dieu, du service. Et on va s'apercevoir que Jésus a des paroles dures, enfin dures, exigeantes, ce serait peut-être le mot plus adéquat. Et qu'il nous pose la question, mais est-ce que si je néglige la consécration dans ce domaine-là, est-ce que quelque part, je ne suis pas en train de remettre en cause mon propre salut, mon propre appel? À quoi ça servirait d'avoir une machine à laver qui ne lave jamais le linge? À quoi ça servirait d'avoir une voiture si vous déplaciez toujours à vélo? À quoi ça servirait, et on peut ainsi multiplier les exemples, à quoi servirait Dieu d'avoir un peuple consacré si ce peuple refuse de se consacrer? Alors nous allons aborder tous ces thèmes les uns après les autres, peut-être groupés, mais surtout que nous puissions réaliser que le but de ces méditations sur la consécration n'est pas de vouloir nous imposer un joug, un devoir moralisateur. Il faut que je fasse. La consécration n'a rien à voir avec l'activisme. Mais c'est une mentalité. C'est une mentalité. Amen. Amen.